Prenons nos Bibles et regardons ensemble dans Hébreux chapitre 13. Mon texte aujourd'hui est à partir du verset 17, ou bien commençons au verset 17 et continuons jusqu'au verset 25. Et je voudrais vous parler des pasteurs fidèles. Qui est un pasteur fidèle? Ici, dans Hébreux, chapitre 13, le verset 17, nous lisons « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte, comme il en soit ainsi, ou bien qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le passent avec joie et non en gémissement. » ou bien en gémissant, ce qui ne nous serait d'aucun avantage. Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience voulant en toutes choses nous bien conduire. C'est avec instance que je vous demande de le faire, afin que je vous sois rendu plus tôt. Que le Dieu de paix qui a ramené entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous prie, frère, de supporter ces paroles d'exhortation, car je vous ai écrit brièvement. Sachez que notre frère Timothée a été relâché. S'il vient bientôt, j'irai vous voir avec lui. Saluez tous vos conducteurs et tous les saints. Ceux d'Italie vous saluent. Que la grâce soit avec vous tous. Amen. Il y a différents termes que nous trouvons dans les Écritures pour ceux que le Seigneur a suscités pour prêcher et enseigner et nourrir son Église sur terre, mais tout en dirigeant du trône qui est au ciel où il est monté après sa mort, il dirige son Église qui existe et continue encore sur cette terre. Il y a une Église au ciel, les âmes de ce que Christ a racheté et sont auprès de lui et qui ne cessent nuit et jour de l'adorer. Et puis, nous avons sur la terre son Église qui est dispersée dans le monde entier, qui comprend les élus de Dieu que Christ a rachetés par son sang et que l'Esprit fait rassembler dans leurs différents locaux où ils se trouvent, mais partout s'ils sont l'Église de Christ, ils adorent le même Sauveur, le même Seigneur. Mais le Seigneur a donné à son Église sur terre ceux qui sont des conducteurs, comme le mot est utilisé ici dans le verset 17. Ailleurs, nous trouvons des termes comme des pasteurs. Un pasteur, c'est un berger. Et je dirais, puisque c'est écrit ici, que Christ est le grand pasteur, ou le grand berger de ses brebis. Donc, tous ceux qui le servent sont des sous-bergers. Nous ne pouvons pas nous mettre à l'égal de Christ lui-même. Mais, néanmoins, c'est un terme que nous trouvons pour les conducteurs que Dieu suscite pour son Église ici sur la terre. Ainsi, nous avons des termes comme des anciens ou les diacres. Nous avons vu que ce terme diacre signifie ministre. Ceux qui servent le Seigneur en prêchant l'Évangile de Christ sont les diacres, les prédicateurs, les enseignants, les évangélistes, voilà différents termes utilisés pour décrire les mêmes personnes. Quel que soit le titre, nous sommes ici, dans le verset 17, exhortés à ne suivre que ceux qui dirigent nos cœurs et nos pensées vers le Seigneur Jésus-Christ. Il y en a qui se disent pasteurs, qui se disent dirigeants, responsables, conducteurs, mais leur but n'est pas de prêcher Christ et Christ crucifié, mais plutôt d'organiser des gens autour d'eux et en quelque sorte s'établir eux-mêmes comme des petits chefs au-dessus de leur auditoire. Mais ceux qui sont véritablement serviteurs de Christ n'ont qu'un seul but, et c'est de diriger les brebis de Christ à celui qui est le grand berger, le souverain berger, le bon berger. Voilà différents termes que nous voyons au sujet de Christ dans la Bible. Mais en tant que prédicateur et enseignant nous-mêmes, si tel est le cas, nous devons prendre soin de ceux qui nous suivent comme étant les brebis de l'Éternel. Je disais l'autre jour à quelqu'un, « Oui, je suis un sous-berger de celui qui est le grand berger, mais en même temps, je suis une de ces brebis et que moi-même, je dois suivre le grand berger comme tout autre et ne pas chercher à simplement attirer des gens envers moi. » Mais dans 1 Pierre chapitre 5, nous voyons l'apôtre Pierre dans sa vieillesse en train de donner des instructions à ceux qui sont établis comme conducteurs. Et il dit ici dans le verset 1, 1 Pierre 5 et le verset 1, « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens. » Ici, ce n'est pas simplement anciens en âge, mais spirituellement mûrs. Ce ne sont pas des novices. La Bible nous dit de ne pas imposer les mains sur ceux qui viennent de débuter leur marche dans le Seigneur, mais que ce soit des anciens spirituellement qui sont parmi vous et dit « Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. » Ça, c'est très important. Quelqu'un ne peut pas témoigner des souffrances de Christ, c'est-à-dire de sa mort et ce qu'il a accompli à travers sa mort, si lui-même, il n'a pas eu cette révélation de Christ au sujet de ses souffrances de Christ. Pierre a vu lui-même de ses propres yeux le Christ crucifié. Nous, nous n'avons pas vu avec nos yeux physiques, mais si nous sommes des serviteurs de Christ, alors nous témoignons de ce que nous avons vu et entendu à travers la révélation du Saint-Esprit. Donc, deux choses, il dit, témoin des souffrances de Christ, ça c'est sa mort à la croix, et participant de la gloire qui doit être manifestée. C'est-à-dire, il est monté au ciel, où il est assis maintenant, où il intercède en faveur de ceux pour qui il est mort, et voilà sa gloire qu'un jour doit être manifestée lorsqu'il revient à la fin des temps. Mais voilà l'instruction qu'il donne. Verset 2, « Paissez le troupeau de Dieu. » N'oublions jamais que c'est le troupeau de Dieu. Il ne faut jamais tomber dans ce piège de penser que, voilà, ce sont mes gens. J'entends des prédicateurs parler comme ça. Mes gens, comme si leur congrégation les appartient, non. « Paissez le troupeau de Dieu. » S'ils sont effectivement sauvés par le sang du Christ, donc c'est le troupeau de Dieu, et il dit qui est sous votre garde. Voilà le mot sous votre garde. Nous ne sommes que des sous-bergers. Et à qui Dieu a donné ce troupeau pour que nous puissions paître, c'est-à-dire nourrir les brebis de Christ selon la parole de Dieu, et notons, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu. Nous ne sommes pas forcés à être des pasteurs ou bien des anciens, des prédicateurs, enseignants, évangéliques. Non, c'est Dieu qui suscite chacun selon sa volonté, et ceux qui suscitent servent Dieu alors volontairement, avec joie. Non pour un gain sordide, c'est-à-dire cherchant un salaire quelconque, mais avec dévouement, non comme, notons bien, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage. Même cela nous montre que c'est Dieu qui détermine. La largesse, cela veut dire le nombre de ceux qui nous suivent, ceux qui nous sont échus en partage. Nous ne pouvons pas être jaloux de certains, puisqu'il y a un plus grand nombre que le Seigneur leur a donné, à qui ils prêchent par rapport peut-être à nous-mêmes. Peu importe, là où deux ou trois sont réunis en son nom, Christ dit, il est parmi eux, il est présent. Mais ici, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant quoi? Les modèles du troupeau. Voilà, ceux qui nous suivent non pas parce que nous sommes mieux que d'autres, mais plutôt que Dieu nous a placés là comme modèle du troupeau afin de les paître en Christ. Et notons verset 4, lorsque le souverain pasteur, ici dans notre texte, ça parle du grand pasteur, ici, il s'agit du souverain pasteur. Lorsqu'il paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Et là, quand nous lisons la couronne incorruptible de la gloire, ce n'est pas une couronne matérielle, non, spirituelle, incorruptible, de la gloire de Christ. Quelle est la couronne incorruptible de la gloire? C'est d'avoir cette joie, cette grâce de passer l'éternité avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors, revenons dans notre texte et voyons donc ce que la Bible a à nous dire, surtout dans ce dernier passage, dans cette épître aux Hébreux, ce que cela nous dit concernant les pasteurs fidèles. Et la première des choses, comme nous avons déjà remarqué dans le verset 17, c'est que nous devons les suivre. Pas n'importe qui. Il ne suffit pas de simplement chercher quelqu'un qui peut diriger l'assemblée, mais que ce soit des conducteurs que le Seigneur lui-même a suscités. Et ceux-là, nous sommes appelés à obéir et à se soumettre à eux, comme ceux, lorsque c'est écrit ici, qui veillent sur vos âmes. Ouais, ce ministère de pasteur, c'est de veiller sur les âmes, de prêcher Christ qui est le sauveur des âmes. Et donc nous prêchons pour le bien des hommes, mais surtout pour la gloire de Christ, mais que cela soit fait comme Pierre l'a dit déjà, avec joie et non pas avec douleur, puisque simplement imposer des lois, des règlements sur des gens pour les forcer à suivre quoi que ce soit, ça ce n'est pas un ministère de joie, mais nous devons nous soumettre à ces conducteurs-là, pas n'importe quel conducteur, mais à ceux que le Seigneur lui-même a suscités. Malheureusement, certains aujourd'hui poussent trop loin l'idée de la soumission aux dirigeants de l'Église. J'en ai entendu dire, non, mais vous devez vous soumettre parce que c'est moi le pasteur. Il y a même dans le monde un mouvement des bergers, c'est ça le titre, le nom de ce mouvement. Et réellement, c'est un exemple clair de ce genre d'abus que beaucoup semblent accueillir, voulant que quelqu'un d'autre soit responsable de leur vie. Donc, ils se soumettent aveuglément à ces hommes-là. Mais tel n'est pas le sens de ce mot « obéissez à vos conducteurs ». En tant que ceux qui doivent rendre compte, c'est ça qui est écrit ici. Cela veut dire tout ce que nous sommes et tout ce que nous prononçons, le Seigneur lui-même en est témoin. Donc, celui qui est un pasteur fidèle se rend compte qu'il est, il doit d'abord rendre compte à Dieu que chaque fois que je me lève pour prêcher, c'est Dieu qui est le témoin. Et donc, je dois prendre cette responsabilité au sérieux. Et je sais que ce que le Seigneur nous donne, à qui nous prêchons, c'est surtout lui qui les attire. Alors, c'est lui qui les nourrira à travers le message de Christ que nous avons annoncé. Donc, que nous le fassions avec joie et non avec chagrin, comme le mot indique là, en gémissant. Si le Seigneur n'est pas avec un prédicateur, donc mieux vaut que ce prédicateur aille ailleurs et qu'il apprenne un autre atelier, un autre travail qu'il va faire que de se forcer à faire ce à quoi il n'est pas doué. Mais ce que le Seigneur suscite, que le ministère soit avec joie, ainsi c'est profitable pour ceux qui les écoutent et notre propre bien, c'est que comme nous nous soumettons à Dieu et à ce message de Christ, ainsi ceux qui nous écoutent seront aussi soumis. Donc ça c'est le premier point concernant un pasteur fidèle, c'est que nous devons les suivre étant établis par le Seigneur Jésus lui-même. Mais deuxièmement, dans les versets 18 et 19, nous devons prier pour eux. Et si nous sommes un de ceux-là, nous devons encourager ceux qui nous entendent aussi à prier pour nous. Il y a certains prédicateurs et dirigeants qui s'imaginent qu'ils sont au-delà de la nécessité des prières des gens. Ils s'imaginent que non, c'est eux qui doivent prier pour les autres, mais eux, ils n'ont pas besoin des prières des autres. Ça, c'est la folie. Et cela démontre déjà l'orgueil de leur pensée. Ici, dans le verset 18 et 19, l'écrivain aux Hébreux dit « Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience. » Donc, ici, il considère que c'est tellement important que les autres prient pour lui, il démontre par là son besoin. Et nous sommes toujours dans le besoin, moi inclus. Peu importe le nombre d'années que je prêche cet évangile, mais j'ai toujours besoin que le Seigneur me dirige et qu'il me soutienne et que c'est lui-même qui me fortifie d'être fidèle à ce message. Donc celui qui est véritablement un pasteur fidèle, un prédicateur fidèle, a besoin des prières du peuple de Dieu. dans la grammaire de la langue grecque, prier ici est présenté dans le sens impératif, au présent impératif. Cela indique une activité continue d'abord, quand il dit ici « prier pour nous », c'est comme s'il dit « continuer à prier pour nous » et ne cessez pas de prier pour nous. Cela veut dire qu'il n'y a jamais un moment où nous ne sommes pas dans le besoin de la prière de ceux qui sont les enfants de Dieu. Mais aussi, ça implique un sens impératif, c'est impératif. L'urgence, on le voit déjà dans le mot « prier pour nous ». C'est ainsi que l'auteur, l'écrivain, reconnaît que c'est le Dieu souverain qui agit selon les moyens qu'il donne. Et un de ces moyens, c'est la prière. Nous ne devons jamais minimiser la prière pour dire « non, mais Dieu a déjà tout ordonné, donc peu importe si nous prions ou pas ». Non. Dieu a non seulement ordonné ce qui doit se passer, mais il a aussi ordonné les moyens. Et pour l'œuvre de Dieu, comme la prédication de l'Évangile, certaines raisons, mais si Dieu a déjà élu un peuple pour pouvoir prêcher, nous prêchons parce que c'est par le moyen de la prédication que Dieu a ordonné à ce que ses élus soient appelés. Nous ne devons pas nécessairement savoir qui ils sont. Seulement, nous sortons comme un semeur pour semer le champ. C'est Christ qui est le semeur. Et c'est lui qui fait produire le résultat comme il veut. Mais pourquoi la nécessité de prier pour ceux qui sont des prédicateurs fidèles? C'est parce que plus que tout autre, ils expérimentent les obstacles et l'opposition à cause du message de Christ. Et donc, la prière ici et cette requête de prier pour cela, c'est en vue des obstacles qu'un serviteur de Christ peut faire face. Il dit dans le verset 19, c'est avec instance, voilà l'urgence, instance que je vous demande de le faire, afin que je vous sois rendu plus tôt. Celui qui est l'écrivain aux Hébreux, était à ce moment décrit en prison à Rome, comme nous allons voir plus tôt, quand il dit dans le verset 24, « Ceux d'Italie vous saluent ». C'est pour ça que beaucoup pensent que c'est l'apôtre Paul qui écrivait cette épître aux Hébreux. Mais d'habitude, Paul mettait son nom au début de ses épîtres. Ici, l'épître aux Hébreux a simplement commencé avec la parole qui a été donnée à cet écrivain. Donc, certainement, il s'agissait d'un apôtre, on ne sait pas nécessairement lequel. Nous savons que plus tard, c'est quelqu'un qui connaissait Timothée, parce qu'il dit dans le verset 23, « Sachez que notre frère Timothée a été relâché. » Donc, lorsqu'il dit ici « afin que je vous sois rendu plus tôt », il était quelqu'un qui était en prison et qui espérait être relâché bientôt, comme c'était le cas du frère Timothée qui a été relâché. Et certains pensent que même Timothée était celui qui a apporté cette lettre à l'Assemblée et aux Hébreux pour que ça soit lu dans les assemblées. Et l'espérance de celui qui a écrit cette épître était d'être relâché bientôt, de pouvoir les visiter aussi. Nous ne savons pas qui était l'écrivain aux Hébreux, mais nous savons que c'était un serviteur de Christ qui souffrait à cause du message de l'Évangile, et son désir, même étant emprisonné, était que ceux-là, à travers cette parole inspirée, soient encouragés, fortifiés, comme étant un pasteur fidèle, mais néanmoins étant dans le besoin de leur prière. Oh, que nous-mêmes, nous n'arrivons jamais au point dans nos pensées d'imaginer que nous n'avons pas besoin des prières des enfants de Dieu à notre égard. Combien nous en avons besoin. Et je crois que c'est toujours bien de rappeler cela à nos assemblées, à qui nous prêchons. Je le fais souvent. De prier pour moi, non seulement avant que je ne le prêche, mais pendant que je le prêche et après la prédication. J'en ai besoin. Donc ça, c'est le deuxième point concernant les pasteurs fidèles. Nous devons les suivre. Nous devons prier pour eux. Mais troisièmement, nous recevons la bénédiction de Dieu à travers eux. C'est vrai, nous ne devons pas élever les hommes que Dieu a établis comme prédicateurs au-delà de ce qui est juste, mais néanmoins reconnaissons que c'est Dieu lui-même qui a établi la bénédiction pour le peuple de Dieu à travers ses pasteurs fidèles. Parfois, j'entends les gens dire, oui, mais est-ce que je ne peux pas simplement m'asseoir à la maison et lire ma Bible et être nourri? Oui, c'est effectivement un des moyens que Dieu donne pour nourrir ses brebis quand c'est nécessaire, parce que nous savons qu'il y a des gens qui sont dans des lieux dans le monde qui n'ont pas un prédicateur, qui n'ont pas une assemblée et qui n'ont pas ce privilège de s'asseoir sous cette prédication fidèle d'un serviteur de Christ. Donc, en ce cas-là, ils lisent la Bible et le Seigneur s'en occupe, c'est vrai. Mais là où il y a ces lieux où Dieu a rassemblé deux ou trois même et leur a donné un prédicateur fidèle, alors c'est à travers cela que Dieu bénit ceux qui les écoutent. Et c'est pourquoi l'écrivain ici donne cette bénédiction à la fin de cette épître. Notons comment c'est écrit, que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Quelle bénédiction d'avoir un pasteur fidèle qui a à cœur le bien-être des brebis du Seigneur et qui prononce ainsi une telle bénédiction. Cette bénédiction ici est dans le style de ce que nous lisons dans Nombre, chapitre 6 et le verset 22 à 27. Je connais certains pasteurs qu'à la fin de chaque culte, ils prononcent une bénédiction pour le peuple. Et ce n'est pas une mauvaise idée. Seulement, ce n'est pas nécessaire que ça soit d'une manière légaliste. Mais quand c'est fait de tout cœur, voilà une belle bénédiction, comme nous lisons ici dans Hébreux 13. Mais ici, c'est de la part de Moïse, et ça représente une bénédiction sacerdotale. Cela veut dire de la part du médiateur à l'égard du peuple. Et le verset 22 de Nombre 6, nous lisons, « L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Donc nous savons que toute bénédiction vient de Christ d'abord, mais à travers Christ, sur ses prédicateurs fidèles qu'il a suscités et à travers ses prédicateurs fidèles, alors le peuple. Ici dans Nombre 6, c'est intéressant que c'est une bénédiction qui est prononcée trois fois. Et je crois que ça représente Dieu qui est unique, mais en trois personnes. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Cela vient de Dieu le Père. Et que l'Éternel passe, lui, sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Ça, c'est l'œuvre de Christ. Et puis, verset 26, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ça, c'est tout un message qu'on pouvait annoncer là. Donc, ici, dans Hébreux 13, après avoir demandé à ses lecteurs de prier pour lui, l'écrivain, aux Hébreux, en quelque sorte, prie, c'est ça une bénédiction, prie pour ses lecteurs. Nos prières ne doivent pas simplement être rendues d'une manière formelle, non, mais du cœur, lorsque nous prions pour l'Assemblée. Et c'est ainsi qu'il donne à la fin ici cette bénédiction. Et c'est une manière de reconnaître, la bénédiction est une manière de reconnaître tous les attributs de Dieu. D'abord la paix, qui est mentionnée dans le verset 20. Comment est-ce que Dieu a établi la paix entre lui et son peuple? C'est à travers l'œuvre de Christ. Et c'est pourquoi il mentionne cela dans la phrase qui suit, « Qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ. » Tout cela comprend l'œuvre de Christ, de qui vient toute bénédiction. Sans la résurrection du Seigneur Jésus-Christ d'entre les morts, il n'y aurait pas de salut. C'était nécessaire qu'il meure, mais qu'il soit ressuscité aussi. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ démontre l'accomplissement parfait de l'œuvre de Christ à l'égard de son peuple, mais aussi pour la gloire de Dieu le Père. Cela indique que Dieu a accepté le sacrifice de Christ. Et cela, selon cet écrit ici, une alliance éternelle. L'alliance dans son sang. Voilà ce que Christ a appelé la nouvelle alliance. Bien sûr, il y avait l'ancienne alliance, mais il n'y avait pas de salut dans cette alliance. Tout était sous forme de type ou bien de prophétie, image. Et nous savons que les sacrifices des animaux ne pouvaient jamais ôter le péché. Mais grâce soit rendue à Dieu que lorsque Christ est venu, Dieu a une fois pour toutes établi la paix. Il a réconcilié ce peuple qu'il a donné à son Fils et pour qui Christ est venu dans le monde. Ce n'est pas pour tout le monde, mais pour ce peuple qui faisait partie d'une alliance éternelle que Dieu a établie avec son Fils bien avant que Christ ne soit venu dans le monde, mais à travers le temps, il est venu. Un corps lui a été préparé et un sacrifice rendu et le sang immolé jusqu'à la mort. Voilà ce que la justice et la loi de Dieu exigeaient, sans quoi il n'y avait pas de salut. Et c'est de cela que vient maintenant toute bénédiction. Et c'est cette même œuvre, dans cette bénédiction, que l'écrivain prie ici, que cela rend capable chacun de ceux qui sont rachetés et que Dieu a justifiés à la croix, rend capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Quelle est une bonne œuvre? Une bonne œuvre, c'est une œuvre que Dieu lui-même a établie et a rendue. Et comment accomplir sa volonté? C'est uniquement en regardant à Christ. La volonté de Dieu, c'est que Christ soit honoré en toutes choses. Et donc, ceux qui sont ainsi instruits par l'Esprit de Dieu à travers la prédication de l'Évangile sont dirigés par ce même Esprit à la gloire de Christ et ainsi font tout ce qui lui est agréable, mais n'ignorons pas toujours cette phrase, par Jésus-Christ. Nous sommes ce que nous sommes, par Jésus-Christ. Si nous sommes pardonnés, c'est par Jésus-Christ. Si nous sommes sanctifiés, c'est par Jésus-Christ. Si nous sommes justifiés, c'est par Jésus-Christ. Si nous sommes glorifiés, c'est par Jésus-Christ. C'est ainsi qu'il dit, auquel soit la gloire. Aucune gloire n'appartient à l'homme, mais à lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Et puis, le dernier point que je voulais souligner au sujet des pasteurs fidèles, c'est que nous sommes exhortés à l'amour et à la communion en Christ par eux. Voilà le but, la raison que Dieu établit les pasteurs, c'est afin qu'ils partagent ensemble un amour fraternel et une communion en Christ. Et je remercie le Seigneur, quelle que soit la distance qui nous sépare. Néanmoins, nous n'avons qu'un seul sauveur, nous n'avons qu'un seul sacrifice qui nous a justifiés. Et nous n'avons qu'un seul trône de la grâce auquel nous nous approchons ensemble, selon ce que nous lisons dans la Bible. C'est pourquoi il dit ici, je vous prie, frères, versets 22 à 25, de supporter cette parole d'exhortation. C'est comme un père qui est en train d'exhorter ses enfants, de supporter, de recevoir avec joie. Ici, l'auteur ou l'écrivain aux Hébreux nous rappelle son dessein, son désir était d'écrire même un mot d'exhortation pour encourager ceux qui appartenaient au Seigneur dans leur découragement, quel que soit le temps que cela arrive. Et nous allons tous faire face à ces moments de découragement et moments de besoin du soutien de la grâce de Dieu et de Christ qui est l'avocat. Ça, c'est sûr et certain. Donc, il les encourage. Il dit ici dans le verset 22, « Car je vous ai écrit brièvement. » Ça nous a pris assez de temps de traverser cette épître. Et pour nous, peut-être, c'est une longue épître. Mais par rapport à tout ce qui reste à dire, nous savons que tout ne peut pas être dit ici dans une seule épître. Néanmoins, nous prenons cette épître et même ayant fini d'étudier, nous avons besoin encore de recommencer au début et reprendre tellement cette exhortation est pleine de la grâce de Dieu. Et lorsque nous parlons de cet amour et cette communion en Christ, c'est dans ce sens-là qu'il se réfère à Timothée, disant « notre frère ». Il ne dit pas « mon frère », comme c'était seulement, uniquement entre Timothée et lui, mais « notre frère ». Voilà ce que nous partageons ensemble, si nous sommes des enfants de Dieu, rachetés par Christ, c'est que nous sommes des frères et des sœurs en Christ. Et voilà ce qui fait notre joie. Et toutefois, que nous avons cette possibilité de se voir face à face, je sais que nous sommes séparés les uns des autres par une grande distance, mais même si sur cette terre, cette occasion ne nous est plus donnée de se réunir et se voir face à face, je sais que notre espérance, c'est qu'autour du trône de la grâce de Dieu, pour l'éternité, un jour, nous serons face à face. Et cette communion et cette fraternité continuera pour l'éternité. Donc c'est ainsi qu'il termine, que la grâce soit avec vous tous. Amen. La grâce, ça c'est la bienveillance de Dieu en Christ, par qui il a complètement pardonné les péchés de son peuple et qui continue à bénir son peuple à cause de Christ. Notons, c'est au temps présent, que la grâce soit toujours avec vous tous. Amen. Que ça soit ainsi. Alors que le Seigneur bénisse cette parole que nous venons de l'écouter aujourd'hui, mais à travers toute cette épître, que ça soit la gloire de Dieu seul. Amen.